Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Elisabeth.
Émilie, votre choix d'actu du jour.
Guerre, texte inédit de Louis-Ferdinand Céline sort aujourd'hui en librairie et je vous expliquerai pourquoi c'est un miracle.
Et on en parle avec un spécialiste de Céline qui, évidemment, a lu Guerre et qui a, depuis des années, cherché ce manuscrit introuvable. Émile Bramy sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
C'était le 5 mai 1992, il y a 30 ans, jour pour jour, la tragédie de Furiani. 19 morts, 2357 blessés. On revient ce soir sur le plus grand drame de l'histoire du sport français.
Patrick, votre édito.
Je vais vous parler de Jean-Luc Mélenchon et de ses dons de magicien et fait Gérard Majax. Il a fait disparaître le PS.
On en parle avec Renaud Dely, journaliste politique, éditorialiste dans la matinale de Marc Fauvel sur France Info. Bonsoir, merci de votre présence, Renaud. Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, ça sera point nommé.
C'est un hasard.
Quand se décide en ce moment l'avenir du PS, parce que là, le Congrès va ratifier ou non l'accord avec les Insoumis. Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Volodymyr Zelensky qui lance un appel aux dons, une forme de financement participatif. Vous pouvez aider l'Ukraine, savoir où ira votre argent. Vous pouvez même payer en crypto-monnaie. On sait enfin à quoi sert le Bitcoin.
On le saura dans le 5 sur 5 ce soir. Et Pierre, dans votre œil.
Je vous présenterai tout à l'heure un graffeur, un street artiste, un peintre de rue de 82 ans. Il est aussi l'un des pionniers de cet art moderne si vivant. Et il est français et on l'appelle Slutty.
Le père des graffeurs dans l'œil de Pierre ce soir. Henri Dess, le génial auteur, compositeur, interprète des bêtises à l'école ou de la petite Charlotte, est notre invité ce soir, notre invité Madeleine de Proust, à partir de 20h autour du dîner préparé par Camille Gandolfo, notre chef marseillaise. Tout va bien ?
Bonsoir, oui, tout va bien.
Sur la canne-bière, là, la canne-bière de cet
avec mon beau poisson bien frais.
Bah, du poisson frais, de la dorade.
De la dorade royale de Méditerranée, exactement. Ceviche avec une sauce au piment vert.
Merci beaucoup, Camille. À tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Le PS a donc signé un accord électoral avec les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce un accord historique ?
Bah, pour le pays, on le saura le 12 juin, au soir du premier tour. Mais pour la gauche, oui, c'est un tournant historique, une rupture majeure qui acte pour la première fois depuis 40 ans la prééminence d'une gauche radicale et souverainiste sur une gauche réformiste, social-démocrate et européenne. C'est aussi la revanche éclatante de Jean-Luc Mélenchon qui se sentait humilié au sein du PS, qui en est parti en 2008 et qui, 14 ans plus tard, lui dicte les conditions d'un sauvetage électoral ou d'une tentative de sauvetage. C'est enfin l'effacement d'un mouvement, le PS, qui aura gouverné la France durant 20 ans avec Mitterrand, Jospin et Hollande. Pour paraphraser Malraux, entre Macron et Mélenchon, désormais, il n'y a rien sauf quelques éléphants égarés.
La direction du PS conteste l'idée d'effacement ou de disparition.
C'est pourtant ce que vont constater des millions d'électeurs qui, pour la première fois, n'auront pas de bulletin socialiste à glisser dans l'urne. Pas de candidat PS dans 85% des circonscriptions, ça n'est jamais arrivé. Dans toutes les alliances précédentes, programme commun, gauche plurielle, la concurrence du premier tour était la règle, les candidatures communes l'exception, mais la faiblesse de la gauche, 31% tout mouillé au premier tour de la présidentielle, et le mode de scrutin législatif ont logiquement conduit à ce « sauf qui peut », où les Insoumis se taillent la part du lion, la NUPES, la Nouvelle Alliance Populaire Écologique et Sociale, va investir 30 candidats communistes, 70 socialistes, 100 écolos et environ 350 mélenchonistes. Jackpot inespéré pour un parti qui n'a pratiquement pas d'implantation locale. Tandis que le PS disparaîtrait du paysage dans une quarantaine de départements, dont des terres historiques du socialisme, Ariège, Hérault, Tarn, Haute-Pyrénées, Lot, Dordogne, Creuse, zéro investiture aussi en Corrèze, le département de François Hollande, la Nièvre, celui de Mitterrand, la Somme, celui de Renaud Dely, deux candidats investis, bah oui, ça compte
aussi.
Deux candidats investis pour 21 circonscriptions dans le nord de Martine Aubry, rien à Lille, deux à Paris, huit seulement dans toute la région parisienne, dans des villes, des départements et des régions dirigées par des socialistes. Alors évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Partout, les dissidents vont fleurir, des candidats qui ont déjà été investis et avec l'approbation des militants. Et sans doute, il y aura une autre bannière ou un nouveau mouvement, une sorte de PS canal historique.
Et sur le programme, le PS a dû faire des concessions.
Ah, c'est plus que des concessions, mais l'accord signé ressemble davantage à un pacte d'opposants qu'à un programme de gouvernement. En résumé, les socialistes avalent la retraite à 60 ans, l'abrogation des lois Touraine et El Khomri qu'ils ont promues, la 6e République, la renationalisation d'EDF, d'Engie, des autoroutes et des aéroports, c'est dans le texte signé avec les communistes, et sur l'Europe, la désobéissance ou la dérogation de manière transitoire à certaines règles, tout en travaillant à les transformer. Là, le texte négocié pendant 3 jours et 3 nuits atteint des sommets de contorsion et de périphrase. Ça commence par « nous avons des histoires différentes avec la construction européenne ». Tu parles, Jean-Luc Mélenchon a construit son parcours depuis 15 ans contre le projet européen, c'est la fracture originelle à gauche. 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen. En 2010, Mélenchon écrivait que l'Europe est le premier obstacle à son programme. En 2017, il promettait la sortie pure et simple des traités avec cette formule « l'Europe, on la change ou on la quitte ». Cette fois, il a un peu adouci sa méthode et son vocabulaire. Pas ses objectifs.
Le Conseil national, le Parlement du PS va se prononcer ce soir. Là, ça a commencé à 19h sur cet accord. On est sûr qu'il sera adopté ?
Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a 300 membres et la direction envoie des signaux assez alarmistes depuis ce matin, enfin, en disant que ce sera serré ou que ce sera une dure bataille. S'il est rejeté, vous pourrez donc effacer cette chronique que je viens de faire. Sauf, sauf une certitude, les Insoumis vont rester la force dominante à gauche dans les prochaines années. Et le PS, quoi qu'il arrive, va s'atomiser un peu plus entre Macron et Mélenchon. Il risque effectivement de ne pas y avoir grand-chose.
Renaud Dely, faudra-t-il effacer l'édito de Patrick Cohen à l'issue de ce congrès ?
Hélas, non, je pense pas. Je pense qu'on va être obligé de le garder, l'édito. Non, mais pour une raison simple, c'est effectivement, comme l'a très bien expliqué Patrick Cohen, de toute façon, à l'issue de ce processus, c'est la raison d'être même du Parti Socialiste, c'est-à-dire d'une gauche réformiste, d'une gauche social-démocrate, qui est en question. Et il n'y a pas de raison, d'ailleurs, que cet accord soit ratifié ou non ce soir, que cette gauche réformiste retrouve un espace dès lors que Jean-Luc Mélenchon a réussi cette formidable opération. C'est une OPA absolument extraordinaire d'un point de vue tactique sur l'ensemble de la gauche, et que de l'autre côté, effectivement, ce qui peut rester des lecteurs réformistes, sociolibéraux, pro-européens, sont déjà en grande partie chez Emmanuel Macron, et les derniers ont peut-être vocation à le rejoindre dans les semaines qui viennent.
L'état d'esprit des membres qui doivent valider ou pas cet accord, Louis Amar et Audrey Payas leur ont demandé quelques minutes avant l'ouverture des débats.
Bonjour, monsieur Baumel.
C'est longtemps qu'on n'avait pas vu la caméra devant le Parti Socialiste.
Ça va être un bain de sang ou une réunion consensuelle ?
Ah bah, ni un bain de sang, ni une réunion consensuelle. Ça va être une réunion de débat.
Je crois que le Parti Socialiste, aujourd'hui, est face à son histoire. Il va y avoir un vrai débat.
Dans quel état d'esprit vous êtes avant ce Conseil national ?
Tranquille. C'est un moment important.
Ce soir, si le PS n'adoptait pas cet accord, ça veut dire qu'il tournerait le dos à une très grosse espérance. Hein.
Vous actez la mort du Parti Socialiste aujourd'hui ?
C'est pas acter la mort du Parti Socialiste, c'est le réinscrire dans son histoire, retrouver le temps des conquêtes sociales.
C'est mon parti.
Un commentaire sur ces déclarations ?
Ce qui est amusant, c'est l'idée que si ce texte était rejeté, cet accord était rejeté, le Parti Socialiste aurait vocation à disparaître. Dans les deux cas, de toute façon, il disparaît.
Ah oui.
Le principal risque, si le texte est rejeté, c'est pour Olivier Faure. Parce que là, pour le coup, il pourrait plus se maintenir au poste
de
premier secrétaire.
Il devrait démissionner.
Là, il serait pour le coup contraint de démissionner. Ce qui, d'ailleurs, la plupart de ses prédécesseurs, à chaque raclée électorale, c'est déjà arrivé dans l'histoire du PS.
Ça fait Cambadélis.
Ils ont démissionné, Cambadélis en 2017, Harlem Désir en 2014 et bien d'autres avant.
Entre Macron et Mélenchon, il n'y a plus rien, si ce n'est quelques éléphants égarés, des éléphants qui ont d'ores et déjà dit qu'ils quitteraient le Parti Socialiste. C'est le cas de Bernard Cazeneuve, notamment, hein, qui d'ailleurs est un éléphant du PS, Bernard Cazeneuve.
Quand vous regardez, en tout cas, ce qui est amusant ou inquiétant, ou en tout cas ce qui est très clair, c'est qu'il y a un effacement total déjà d'une toute une partie de l'histoire du PS et d'abord du quinquennat François Hollande. L'ancien président de la République François Hollande, tous ses anciens premiers ministres, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls qui lui est passé chez Macron depuis déjà un moment, Bernard Cazeneuve, tous rejettent cette stratégie, cet accord et la plupart des anciens ministres, on peut penser à Stéphane Le Foll, à bien d'autres. Donc on voit que déjà il y a un effacement de cette histoire-là d'ailleurs parce que en clair, les frondeurs, ce qu'on appelait les frondeurs sous le quinquennat de François Hollande qui ont mené la guerre contre François Hollande et qui ont largement contribué d'ailleurs à l'empêcher de se représenter en 2017, ils ont pris ensuite le parti et ils ont continué en quelque sorte cette fronde d'ailleurs. Depuis 5 ans, les principaux procureurs du bilan de François Hollande, c'était les socialistes, la direction du PS, ce qu'a conduit
Olivier Faure,
ce qu'a conduit fort logiquement les électeurs socialistes à ne pas voter pour la candidate socialiste à la présidentielle. Ils ont préféré voter évidemment pour Jean-Luc Mélenchon, préférant l'original à la
copie. Et Laurent Baumel qui était l'un des animateurs de la fronde et qu'on vient de voir effectivement à l'image. Ce qui est intéressant, si j'ai choisi la formule de Malraux, la prophétie de Malraux originellement c'était entre les gaullistes et entre les communistes et nous les gaullistes, il n'y a rien. Et cette formule politique qui a été formulée par Malraux mais théorisée par De Gaulle, ça a interdit l'alternance pendant 23 ans en France, parce que la frange la plus avancée de l'opposition, c'était la frange la plus radicale. Ah. Et donc le parallèle est intéressant parce que...
Il est d'actualité, alors, en l'occurrence.
On se demande si ce qui va...
L'opposition, elle est radicale.
Quand vous regardez dans l'histoire de France, effectivement, jusqu'au milieu des années 70, c'est le Parti communiste qui domine, comme le disait Patrick un instant. Et effectivement, ça confine la gauche dans l'opposition. Et la gauche ne prend le pouvoir dans une stratégie unitaire, mais que quand le parti le plus modéré, en quelque sorte, tient les rênes de cette alliance. Et quand vous regardez même à l'échelle européenne, jamais la gauche radicale conduisant une alliance ne l'a emportée, sauf une fois, qui est extrêmement instructive, c'est Syriza en Grèce en 2015. Là, c'est la gauche radicale qui gagne les élections législatives, qui prend le pouvoir en Grèce, sauf que pour se maintenir au pouvoir et pour réussir à gouverner son pays, finalement, Alexis Tsipras, qui était le premier ministre grec, bien, il abandonne ce projet, cette promesse de quitter l'euro, de sortir de l'Union européenne, parce que justement c'était de fait, il se heurtait au réel, comme disait le petit canadien Jacques Lacan, voilà, le réel c'est quand on se cogne, et ben Tsipras s'est cogné au réel, donc il a amendé son projet. Le problème du projet unitaire qui est en voie d'être adopté, c'est qu'aussi sincère soit-il, il est en léger décalage avec le réel aujourd'hui sur de nombreux sujets.
Comment en sommes-nous arrivés là? C'est la question que vous posez au début de votre ouvrage, Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès. Et l'une des réponses se trouve dans une séquence de la campagne présidentielle. Lorsque c'était le 9 janvier dernier sur France 3, Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection, donc place le débat sur le terrain de la gastronomie.
Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française, mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens.
Résultat, Fabien Roussel est agonie de critiques beaufries, franchouillardises et même racisme anti-musulman. On y voit l'illustration de la dérive ou du changement de la gauche.
Oui, parce que cet épisode, il peut paraître anecdotique, mais vous vous en souvenez, ça a suscité une polémique à gauche pendant des jours et des jours. Et effectivement, Fabien Roussel a été agonie d'injures par une partie de la gauche, essentiellement d'ailleurs par une partie du mouvement écologiste. On peut penser notamment à Sandrine Rousseau qui avait pris position de façon virulente contre ses propos qui a priori n'avait quand même rien de scandaleux. Et je pense que ça illustre effectivement une forme de repli identitaire de toute une frange de la gauche sur des parts de marché en quelque sorte, parfois sur des communautés. Et ça a contribué largement à ce que ces gauches-là se distinguent les unes les autres, s'affrontent et aussi recherchent. Il y a toujours cette dérive aussi à gauche, pas uniquement à gauche, je me dirais, ça existe aussi à droite, mais la dénonciation de celui qui est moins à gauche, qui est moins pur, qui est potentiellement un traître en quelque sorte. Et ça, c'était Fabien Roussel, il a été victime de ce procès, justement avec ses propos qui étaient quand même tout à fait anodins et qui n'avaient rien de scandaleux pour quelqu'un de gauche.
Et c'est le signe d'une gauche qui rompt avec son histoire aussi.
C'est le signe d'une gauche qui rompt, me semble-t-il, qui perd confiance en elle. C'est-à-dire qui rompt aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, avec une certaine idée du progrès, en tout cas du mouvement. C'est une gauche qui est profondément à la fois repliée sur des identités, sur des communautés qui s'affrontent, et puis repliée sur le passé, qui est nostalgique profondément. D'ailleurs, c'est un peu l'air du temps. Ces derniers jours, on entend beaucoup parler du Front populaire. C'était merveilleux, le Front populaire. Mais c'était il y a 86 ans. On entend beaucoup parler, quand on regarde le programme, effectivement, notamment les nationalisations massives qu'évoquait Patrick Cohen tout à l'heure, ça ressemble, c'est vrai, au programme de 1981. Oui. Sauf qu'après 1981, d'ailleurs, il y a eu le tournant de la rigueur. Et puis ça aussi, c'était il y a plus de 40 ans. Et donc, on voit que cette gauche, pour se rassurer, c'est un réflexe assez humain, d'ailleurs, et compréhensible, parce qu'elle perd pied face au réel, parce qu'elle a du mal aussi à le comprendre, à comprendre sa complexité, à le réformer aussi. Aussi parce qu'il y a toute une partie de la gauche, c'est vrai, qui au pouvoir avait abandonné l'ambition même de le changer, sans aucun doute. Eh bien, le balancier est parti, me semble-t-il, trop fort dans l'autre sens. Et ça contribue probablement à flatter, à enthousiasmer même une frange militante, c'est vrai, mais à réduire en quelque sorte le champ de la gauche sur un espace beaucoup plus réduit électoralement et à la décaler justement de la réalité du pays.
Ce repli, il explique aussi que les classes populaires se tournent majoritairement vers le Rassemblement national.
Ça fait des années que ça dure et c'est un vrai drame. Et effectivement, quand on voit l'histoire de la gauche, quand on regarde par exemple les résultats dans les Hauts-de-France, quand on regarde le triomphe, le vrai succès de Marine Le Pen dans le bassin minier en particulier, ça interroge lourdement. Et quoi qu'il en dise d'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à renouer avec cet électorat-là. Dans le département du Pas-de-Calais, par exemple, il a rassemblé 15% des voix au premier tour de la présidentielle. Très, très loin derrière Marine Le Pen et très loin même derrière sa moyenne nationale. C'est 22%. À Flixecourt, dans la Somme, la circonscription de François Ruffin, l'un des principaux dirigeants insoumis, Marine Le Pen fait trois fois plus de voix que Jean-Luc Mélenchon. Elle fait 45% des voix contre 15% aussi pour Jean-Luc Mélenchon. Et cette rupture-là, elle est liée à un phénomène, à une dérive que j'essaie d'expliquer dans le livre. Effectivement, ces classes populaires, cet électorat qui se sent parfois abandonné sur le plan géographique aussi ou sur le plan social, il a aussi été en grande partie abandonné par cette gauche qui a considéré que dès lors qu'il se mettait à voter pour le Front National, c'était à jamais un électorat perdu, raciste et qu'il était impossible de reconquérir.
Parce que c'est une gauche qui donne beaucoup de leçons. Également.
Il y a un chapitre, effectivement, que j'ai qualifié. C'est sur cette idée de gauche indignée, de l'indignation. L'indignation.
Permanente.
L'indignation, c'est un sentiment qui est à la fois sain, naturel, mais qui est largement insuffisant. C'est légitime et c'est heureux de s'indigner dans la vie face à l'injustice, face au malheur. Mais ça ne fait pas un projet politique. Et trop souvent, il y a une frange de la gauche qui a. On se souvient du succès de Indignez-vous de Stéphane Hessel, mais qui a pris ce qui était un bréviaire pour un programme politique, une attitude de résistance, d'ailleurs, c'est résistance, c'est le mot d'ordre des insoumis dans leur rassemblement, pour un projet politique d'une part, et puis aussi pour un outil qui permet justement, là aussi, de dénoncer celui qui serait moins à gauche, moins pur potentiellement.
Et moins indigné.
Traître, voilà. Et en général, c'est celui qu'on appelle le mou aussi. Voilà.
Il y a une formule formidable que vous vous rappelez, c'est celle de Malek Bouti, la gauche est condamnée à se liquéfier dans sa méchanceté.
Malek Bouti, l'ancien patron de SOS Racisme, avait dit en 2018 effectivement que la gauche avait perdu, selon lui il avait cette formule qui n'était pas très gentille certes, mais que la gauche avait perdu parce qu'elle était devenue méchante, c'est-à-dire parce qu'effectivement elle passait son temps en quelque sorte à régler ses comptes et à plutôt qu'à s'élargir, elle pensait se renforcer en s'épurant, selon la fameuse...
Il y a aussi une question de génération. Je pense à l'indignez-vous de Stéphane Hessel qui s'adressait aux jeunes. Ces jeunes, quand ils disent qu'ils sont prêts à plus manger de viande, à plus prendre l'avion, ils ont l'impression, eux, de se tourner vers l'avenir, au contraire.
Mais il faut s'indigner, bien sûr. Mais encore une fois, ça ne produit pas un projet politique. Par exemple, sur l'enjeu écologique que vous évoquez, le défi climatique, il est là. C'est une urgence, évidemment. Et il faut évidemment en prendre compte. Et on peut tout à fait légitimement considérer que les gouvernants, en France ou ailleurs, n'en font pas assez. Mais là aussi, l'indignation ou la dénonciation d'une génération, par exemple les fameux boomers qui seraient responsables de tous ces maux, ne suffit pas à construire le monde d'après. Le problème de toute une frange de la gauche, et de toute une frange en particulier des écologistes, au sens large, c'est de tenir parfois un discours anxiogène, catastrophiste, mais sans réussir à dessiner les contours du monde d'après. C'est-à-dire, si effectivement c'est foutu, s'il n'y a plus rien à faire, foutu pour foutu, on finit par se racheter des SUV. Évidemment, évidemment, il ne faut pas le faire. Mais ce qui me désole, moi, dans l'évolution idéologique de toute une frange de cette gauche-là, c'est qu'elle tient un discours parfois tellement anxiogène et tellement catastrophiste, encore une fois, je n'ai ni le défi, ni la nécessité de s'indigner et d'alerter, mais derrière, il faut construire, et on a trop souvent l'impression que pour toute une frange de la gauche, ce serait trop tard, ce serait foutu.
Les législatives se préparent aussi dans le camp d'Emmanuel Macron. Cet après-midi, La République En Marche, Horizon, le parti d'Édouard Philippe et le Modem ont présenté leur plan d'attaque, le tout sous la bannière de Ensemble. La République En Marche, elle, change de nom et devient Renaissance. L'ambiance était donc à la fraternité, quitte à un peu appuyer le trait, à scander l'union, l'union, comme l'ont fait observer Louis Amar et Audrey Payas.
Nous sommes ensemble et je m'en réjouis.
Nous avons quand même passé du bon moment.
Dans la bonne humeur. Et les sourires qu'il y avait entre nous.
François et Richard qui ont été remarquables dans cette discussion.
On a beaucoup écrit et beaucoup dit qu'il y avait des tensions dans la majorité. Parce que ça veut dire que vous surjouez un petit peu aujourd'hui votre parfaite entente.
Il ne s'agit pas de surjouer, il s'agit de vous montrer la sincérité des choses.
Il n'y a aucun groupe humain dans lequel il n'y ait des tensions et des différences d'appréciation. Il m'est arrivé d'en avoir avec Richard Ferrand. Chaleureuse, viril. Il m'est arrivé d'avoir des différences ou des divergences avec Édouard Philippe. Et la réciproque est probablement vrai.
Vous marquerez avec moi jamais.
Ça viendra, ça viendra, t'inquiète.
Le Renaissance, c'est le titre qui se veut un symbole du deuxième quinquennat.
En tout cas, ça colle pas beaucoup à l'image. Hein. Vous avez noté, il y a un certain décalage entre le titre et l'image. Ça faisait plus. Voilà, là pour le coup, ça fait Ancien Monde, ça fait plus Troisième République. La mise en scène est assez ratée.
Renaissance.
Après, pour ce qui est de Renaissance et du second quinquennat, il y a quand même une grande inconnue. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien, aujourd'hui, on ne sait pas bien, parce que d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même n'a pas vraiment défini un projet pour se faire élire. Il y a des propositions, il y a des choses, mais il n'y avait pas un message, il n'a pas vraiment dessiné une France. Renaissance, est-ce que c'est la renaissance d'Emmanuel Macron? On a eu le sentiment pendant la campagne que c'était plutôt la perpétuation, la continuité. Alors c'est un terme, on sait que c'est un terme et c'est une période historique sur laquelle il a écrit, à laquelle il s'intéresse beaucoup.
Sa période préférée.
C'est sa période préférée.
Donc c'est sa marque, il donne le nom à son parti, c'est sa marque. Hein.
Après voilà, renaissance, c'est pas forcément effectivement François Bayrou, Richard Ferrand et Édouard Philippe. Voilà.
On a vu plus jeune comme renaissance.
Il y a un petit problème de casting, il y a un manque de femmes qui était flagrant sur cette tribune une fois encore, ce qui est quand même un péché depuis le début de
Emmanuel Macron.
En tout cas, son entourage est quand même très masculin.
Il veut nommer une femme Premier ministre.
Il paraît, oui. Ce serait une très bonne idée, bien sûr, mais
ça prend du temps. Semble,
visiblement, ça prend un petit peu de temps. Voilà.
Parce qu'il a du mal à trouver, peut-être.
Peut-être qu'il a du mal à trouver, peut-être aussi que les vocations ne sont pas si nombreuses que ça. Et puis, il y a aussi une difficulté, je pense, qui est d'analyser clairement la situation politique pour Emmanuel Macron. Parce que si vous regardez. Depuis le soir du premier tour, lui-même, il a infléchi son discours pendant les deux tours sur les sujets écologiques et sociaux en particulier, pour essayer de récupérer des électeurs de gauche, en particulier des électeurs insoumis, pour se faire élire. Et puis, quasiment depuis l'élection présidentielle, on a l'impression que la gauche domine l'ensemble de la scène politique. On doute même parfois que Jean-Luc Mélenchon ait perdu la présidentielle. Et il semble quasiment déjà à Matignon. Or, si vous regardez, il y a comme une petite illusion d'optique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le résultat du premier tour de la présidentielle. L'ensemble des candidats de gauche, ils font 31% des voix. Et on voit que le pays, déjà de longue date, en tout cas dans les urnes, semble pencher à droite et même souvent à l'extrême droite. Oui. Dès lors, est-ce qu'Emmanuel Macron doit aller chercher vraiment un Premier ministre ou une Première ministre plutôt de gauche qui, justement, affiche cette priorité sociale, écologique, au risque de se couper d'une partie de ses soutiens et d'une grande partie de l'électorat? Ou à l'inverse, est-ce qu'il peut espérer, c'est aussi un calcul qui est en discussion en ce moment du côté de l'exécutif, que la radicalisation, on va dire, d'une frange de la gauche sur le programme des Insoumis, sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon, ouvre un nouvel espace et qu'en clair, ils finissent de siphonner ce qui reste de la droite libérale, modérée, de LR. Vous me direz, il ne reste plus grand-chose, en tout cas, si on se réfère au score de Valérie Pécresse. Mais
finir le travail.
Voilà, en gros.
Merci beaucoup, Renaud Dely. Vous restez avec nous. Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès. C'est sorti hier,
absolument.
Le 4 mai, aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous. On continue à commenter l'actualité avec la story de Mohamed Bouabsi. Le 5 mai 2022, ça fait forcément penser au 5 mai 1992.
Oui, il y a 30 ans, à la même heure, la Corse est en ébullition. À Bastia, près de 18 000 supporters du Sporting se rendent au stade de Furiane pour assister à la demi-finale de Coupe de France face à l'OM de Boli, Waddle ou encore Papin. 20h23, un bruit sourd met fin au chant des Bastiais.
À 1500 personnes se trouvaient sur les 30 rangs de sièges qui viennent de s'écrouler. Sur la pelouse, les joueurs ouvrent les grilles qui donnent sur le stade afin d'éviter que les gens soient écrasés.
Dans l'urgence, dans la semaine de la rencontre, une tribune provisoire de 10 000 places avait été montée. Elle reposait sur des tasseaux de bois posés parfois sur des parpaings. Le constructeur Sud Tribune assurait deux jours avant le match que tout était en ordre.
L'occasion était trop belle pour que cette rencontre soit la fête du football. Les grands moyens à la mesure de l'événement, l'assemblage de l'immense mécano que constitue la nouvelle et provisoire tribune latérale nord. Sécurité maximum pour 10 000 fauteuils posés sur un échafaudage de 12 mètres de haut.
Et pourtant, une commission avait émis des réserves quant à la sécurité du stade. Pire encore, quelques heures avant le coup d'envoi du match, la tribune nord est terminée. Elle n'est même pas validée par la commission de sécurité. Le match démarre donc dans l'illégalité.
Il est 19h, un pompier regarde avec étonnement les derniers rangs de la nouvelle tribune. Ce qui l'inquiète, ce sont ces espaces qui commencent à se créer entre les rangs supérieurs la tribune semble bouger, deux responsables de la Fédération de football commencent à s'inquiéter.
Est-ce que le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, si le truc tombe, et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous, ou à qui passent au travers.
La France vit ce drame en direct à la télévision sur TF1. Regardez cette photo. Bernard Tapie, alors ministre de la Ville et président de l'OM, auprès d'un enfant corse victime de l'effondrement. En réquisitionnant les avions disponibles pour assurer le rapatriement de certains blessés vers les hôpitaux du continent, Bernard Tapie aura sans doute sauvé la vie de plusieurs grands blessés de Furiane. 19 personnes décéderont et 2357 seront blessés dans le plus grand drame de l'histoire du sport français. Dans la foulée, une commission d'enquête exceptionnel, présidé par Jean-Pierre Lemoyne, déterminera les responsables de cette tragédie.
En raison de la configuration adoptée par l'ingénieur de Sud Tribune, ne pouvait que s'effondrer et transformer le public accueilli en victime. À aucun point de vue, la commission de sécurité n'a rempli son rôle de recommander aussi au maître d'ouvrage des vérifications techniques qui lui incombaient.
Pascal Olmeta était le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Il s'est chauffé au moment du drame. 30 ans après, il reste marqué par les images de ce 5 mai 1992.
Je suis sur la pelouse à l'échauffement. Une minute après, les joueurs on est tous dans les vestiaires, la porte est fermée. On entend un bruit comme si c'était un avion en réaction. Je suis sorti et là, je ne vois que des gens qui poussent contre le grillage. Et mon premier regard, c'est une gamine qui est assise devant moi, son épaule carrément démise, en train de crier, d'appeler sa mère. Et je tourne ma tête sur la gauche et là, je vois la catastrophe et je vois des choses atroces.
Hervé Béroux était journaliste pour RTL à l'époque, il était au stade. Son seul souvenir ce soir-là, son réveil à l'hôpital après l'effondrement. Hier, il était de retour à Bastia pour la cérémonie d'hommage.
Il y avait de nombreuses victimes de l'époque, des blessés de l'époque, et puis les familles des disparus, des 19 disparus de cette catastrophe de Furiani. Et forcément, ça a été devant la stèle qui est érigée en mémoire des disparus et des blessés, un moment de forte émotion, de communion. Je suis heureux d'avoir fait le déplacement pour marquer ce souvenir encore, même 30 ans plus tard.
Le président de la République, Emmanuel Macron, a tweeté cet après-midi ses pensées à toutes les victimes, les familles et les blessés de cette catastrophe. En octobre 2021, le Parlement a voté l'arrêt des matchs de football français le 5 mai, en hommage aux victimes, comme un symbole. L'Olympique de Marseille dispute ce soir une demi-finale de Coupe d'Europe. Les joueurs porteront un brassard noir et une cérémonie sera organisée avant le match. Et le président de l'OM, Pablo Longoria, a expliqué qu'il voulait ériger une statue pour les victimes juste devant le Vélodrome.
Merci beaucoup Mohamed. C'était le 5 mai 1992.
Juste un petit mot pour dire qu'aux côtés d'Hervé Béroux, il y avait Jean-Baptiste Dumas, qui était le correspondant de RTL à Marseille et qui n'a pas survécu à ce drame épouvantable. Et voilà, c'était bien d'avoir une pensée pour lui ce soir et pour son fils Bastien Dumas.
Merci beaucoup Mohamed. C'est une sortie événement, celle de guerre. Texte inédit de Louis Ferdinand Céline et dont l'histoire pourrait faire l'objet d'un roman.
Oui, parce que déjà on pensait que cela ne serait jamais possible, d'où l'émotion ce matin de l'un des deux ayants droit, Louis Ferdinand Céline, l'avocat François Gibault. Cela faisait plus de 60 ans qu'il était à la recherche de ses écrits.
Une immense satisfaction, hein, parce que...
C'était pas gagné, hein.
C'était pas gagné, c'était pas évident. Ce sont des textes sur lesquels on court depuis, je ne sais pas, 60 ans, peut-être plus. Et aussi une grande émotion. Mais l'émotion, ça a été quand j'ai eu en main le manuscrit lui-même. Livre comme ça, c'est une chose, mais découvrir surtout un manuscrit qu'on cherchait depuis des années... et qu'on a devant soi, en main, dans un bon état, ça a été un miracle.
Un miracle. Pour comprendre, il faut revenir en 1944, c'est la libération. Louis-Ferdinand Céline, écrivain antisémite, fuit et laisse derrière lui des milliers de feuillets jamais publiés dans son appartement de Montmartre à Paris. Appartement pillé, des écrits envolés jusqu'à réapparaître l'année dernière quand un ancien journaliste du quotidien Libération annonce être en possession des fameux feuillets. Selon lui, c'est un un ancien lecteur du journal qui lui a confié à une seule condition, ne pas les rendre publics avant la mort de la veuve de Céline, Lucette Destouches, car étant de gauche, il ne voulait pas qu'elle puisse s'enrichir, ce qui provoque la colère des deux ayants droit de l'écrivain. Comment a-t-il pu garder ses écrits secrètement toutes ces années alors que Céline n'a jamais cessé de hurler au vol ? Il décide d'attaquer cet ancien journaliste de Libération, Jean-Pierre Thibaudat, pour recel de vol. Écoutez leur avocat.
En ce qui concerne le préjudice financier, bah, il s'élève à plusieurs millions d'euros, mais c'est surtout le préjudice moral qui est terrible. Ce que nous regrettons tous, c'est que vous avez des passionnés de Céline qui n'ont pas pu bénéficier de ses œuvres alors qu'elles étaient à la disposition de M. Thibaudat depuis, a priori, 2005-2006.
Alors, convoqué, Jean-Pierre Thibaudat sera à la police, sauf qu'il ne vient pas les mains vides. Il leur remet la totalité des documents en sa possession. La police finit donc par rendre aux deux ayants droit de Céline, François Gibault et Véronique Chauvin, les manuscrits qu'ils ne pensaient jamais revoir dans trois grands sacs Carrefour. Et bien à l'intérieur, un trésor dont Guerre, qui n'est que le premier volet.
Et qui sort donc aujourd'hui. Bonsoir Émile Bramy.
Bonsoir.
Écrivain, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Louis-Ferdinand Céline, dont la biographie Céline à rebours qui est parue en 2011. Céline, c'est toute votre vie et vous avez été, ou presque, et vous avez été l'un des tout premiers à chercher ces fameux manuscrits inédits, sauf que vous couriez après deux textes et que c'est un trésor infiniment plus important qui a été retrouvé.
Absolument. Moi, je cherchais à l'époque, on va dire au tout début des années 2000, je cherchais en fait deux textes. Je cherchais La fin de Casse-pipe et je cherchais La légende du roi Crogold. Et en fait, ce qui a été retrouvé est incroyable, quoi.
6000 feuillets, c'est considérable, et c'est une œuvre à part entière. Alors, selon Gallimard, ce texte aurait été écrit en 1933, après Voyage au bout de la nuit. Vous pensez que, d'abord, c'est très difficile de dater ce texte, mais vous émettez une hypothèse. Guerre est un passage, selon vous, un passage retiré de Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça.
D'abord, c'est un texte court.
D'abord, c'est un texte court, mais c'est ce qui explique qu'il a pu être retiré. Donc, et puis, si vous voulez, bon, la datation est faite à partir de l'adresse d'Elisabeth Craig, la maîtresse de Céline, qui habitait à cet endroit en 1934. Bon, mais qui n'a pas pris un jour un bout de papier pour écrire une adresse dessus. Donc, vous voyez, c'est une datation qui est une datation
assez approximative.
Au moins approximative et en tout cas discutable.
Et puis surtout, vous rappelez le contexte économique de l'époque. Le coût de l'impression est très élevé en 1932 et ça ne vous étonnerait pas qu'on ait demandé à Céline de faire plus court, quoi, pour faire des économies.
Non seulement le coût de l'impression était élevé, mais quand on regarde le volume tel qu'il a été imprimé, il a été imprimé à l'économie. Par exemple, les marges autour du texte sont extrêmement étroites. Et il a fallu que l'éditeur donc, de l'époque demande à sa mère, il s'appelait Steele et c'était l'associé de Noël, demande à sa mère de l'argent pour pouvoir mener à bien l'impression des 5000 premiers exemplaires.
Ce qui est sûr, c'est que quand même ce ne serait pas un roman à part, c'est un texte cohérent, complet, avec un début, un milieu, une fin. Un premier jet, ça c'est une certitude, Céline ne s'est pas relu. Hein.
Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un premier jet. Alors, on peut expliquer pourquoi, si vous voulez, il y a un certain nombre de répétitions qui sont un peu étonnantes, qui auraient été évidemment retirées une fois avant l'impression.
Qui n'ont pas été corrigées dans le...
Les répétitions sont telles quelles.
Non, les répétitions n'ont pas été corrigées, non. Ouais. Si vous voulez, c'est le texte tel qu'il est.
Sans ponctuation, tel qu'il a été lu. Ou peu.
Alors ça n'est pas la ponctuation de Céline habituelle, puisque ce sont des points, alors que d'habitude c'est point d'exclamation et point de suspension. Et puis, si vous voulez, bon, il y a effectivement, par ailleurs, c'est un texte avec une continuité, c'est une narration complète, et donc ça explique que ça puisse être présenté comme un roman.
J'ai attrapé la guerre dans ma tête, elle est enfermée dans ma tête, écrit Céline, qui est alors sur le front belge en octobre 1914. Le maréchal des logis Destouches est blessé en pleine tête et dans le bras. Point de départ d'un récit d'une noirceur folle, mais aussi d'un érotisme hallucinant.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, parce que dans Mort à crédit, par exemple, il y a des passages qui sont des passages extrêmement érotiques, qui ont d'ailleurs été censurés au moment de la première publication. Mais là, je pense aussi que c'est parce que Céline ne s'est pas relu, qui s'est laissé totalement aller à ce qu'il avait envie de dire. Et je pense que si ce texte avait été publié, il aurait été forcément lissé, ne serait-ce que par l'éditeur.
Le tout dans un argot que même San Antonio n'aurait jamais osé ou trouver. L'argot, c'est Céline, mais là particulièrement. Hein.
Bah, pour San Antonio, il a beaucoup pompé Céline. Hein.
Dard disait qu'il avait beaucoup lu Céline.
Oui, bien sûr.
Source revendiquée.
Il avait une phrase assez amusante. Il disait, par rapport au grand cri de Céline, le mien, c'est celui d'un chiot qui a envie d'aller faire pipi.
Tout est atroce, voire atrocement drôle. Oui. Et notamment une scène tordante à la fin du livre, un repas avec ses parents. Alors, c'est hilarant.
C'est un repas avec ses parents et avec la personne qui dirige les assurances de l'endroit. En fait, c'est Hasbrook. Et il y a un portrait de cet assureur qui est à mourir de rire. Quoi. Voilà. Espèce de ganache, totalement imbu de lui-même. Enfin, c'est très, très.
De l'humour, de la noirceur et de l'argot pour un excellent Céline. Pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, vous dites la bonne porte d'entrée pour tous ceux qui n'auraient pas encore lu Céline.
Alors, pour moi, oui, parce que si vous voulez, à la fois, on trouve tous les éléments constitutifs de l'œuvre de Céline. Le seul point qui sera un peu. Peut-être qui coincera un peu, c'est justement l'érotisme. Et puis surtout, c'est un texte court. Alors que Céline, c'est toujours 400, 500 pages. Et donc, ça permettrait à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Céline d'y accéder d'une manière plus simple que les très grands livres.
Guerre et des touches à la guerre. Je vous propose un court extrait d'une interview que Céline a accordée en 1959 avec son ton et son regard inimitable. Il y évoque l'envie des hommes de mourir.
Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple, ils diraient « je n'y vais pas ». Mais ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, il y a un nosotropisme chez l'homme. C'est ce désir...
Le besoin de destruction.
Ben, disait Montluc, maréchal d'Henri IV, n'est-ce pas ? Seigneurs et vous, capitaines, qui mesez les hommes à la mort, car la guerre n'est pas autre chose.
Pour vous, ce guerre, cet ouvrage, c'est vraiment aussi l'illustration d'un syndrome post-traumatique après sa blessure.
Alors, à l'époque, on ne parlait pas de ça.
Non. Oui.
Mais, si vous voulez, si on prend la vie de Céline, jusqu'à sa blessure, c'est vraiment presque la personne parfaite. C'est un fils formidable, il obéit à tout ce que demandent ses parents, etc. Et puis, à partir de la blessure, le personnage change totalement. C'est-à-dire qu'il devient une espèce de petit loulou. Voilà, et quand il va en Angleterre, il fréquente les voyous, les prostituées. Enfin bon. C'est-à-dire que la personnalité bascule véritablement entre le moment d'avant la blessure à après. Bon, par exemple, il est dans une... Il va ensuite en Afrique, dans une plantation où il va commettre quelques petites escroqueries. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé de la personne qu'il était avant.
On a retrouvé ces manuscrits. En revanche, on n'a toujours pas élucidé la question qui a d'ailleurs hanté la vie de Céline jusqu'au bout. C'est qui a volé ces manuscrits ? Pour Céline, peu de doute, c'est Oscar Rosemly, un juif... Rosemly, un juif corse résistant qui a donc pillé des appartements à la Libération, dont celui de Céline. Et c'est aussi ce que croit le cousin d'Oscar Rosemly, Pierre Morin, interrogé dans le documentaire stupéfiant Céline, Les Derniers Secrets.
Il est monté dans l'appartement, dont il avait sans doute une clé. Il est monté à l'appartement. Il a vu, alors l'appartement très bien entretenu. Il n'y avait aucun papier sur les tables, rien nulle part. Mais dans les tiroirs, dans les armoires, il y avait des écrits.
Peut-être en haut de l'armoire. Peut-être.
Il ne m'a pas pris. Il y avait des écrits. Oui. Ces écrits, ce sont des manuscrits.
Oui.
Donc il les a vus.
Oscar vous a dit, oui, je les ai vus. Il ne vous a pas dit, je les ai volés.
Il ne m'a pas dit qu'il les a pris, il m'a dit qu'il les a vus. Qu'il les a touchés, qu'il les a vus, il savait où ils étaient. Il y avait de fortes liasses, sans doute.
Hein. Mais vous pensez qu'il les a pris?
Oui.
Voilà.
Vous aussi, vous pensez, vous croyez à cette piste?
J'en suis certain. Je ne pense pas, j'en suis certain.
Certain.
Si vous voulez, moi j'ai racheté... au fils de Tixier-Vignancourt, j'étais libraire d'anciens autrefois, donc j'ai racheté au fils de Vignancourt tous les procès que Vignancourt avait plaidé pour Céline. Et à l'intérieur de ça, il y avait un petit dossier à part qui était le dossier de l'acteur Le Vigan. Et le vigand disait, Rosambly est venu faire une perquisition chez moi, il a tout piqué comme chez Céline.
Donc, Robert Le Vigand qui avait collaboré sous l'occupation et qui était parti en Amérique latine.
Oui, et qui a accompagné Céline à Sigmaringen entre-temps.
Voilà, et Oscar Rosambly qui connaissait Céline, il était le comptable de Céline, il faisait
non, alors, attendez,
pendant la guerre.
Alors, pour revenir à ce qu'on dit, Rosambly n'était pas juif. Contrairement à ce que son nom indique, en fait, c'est une famille qui est arrivée dans la région de Metz au XVIIe siècle et qui s'est immédiatement convertie au catholicisme. Bon. Sauf qu'avec son nom pendant l'occupation, tout le monde était persuadé qu'il était juif, et en bon antisémite, Céline lui faisait faire sa comptabilité, ce qui est parfaitement normal.
Merci beaucoup, Émile Brami, d'être venu nous parler de ce texte inédit, un miracle, Guerre, qui est paru aujourd'hui aux éditions Gallimard. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Salut Mathieu.
Un braquage à main armée cet après-midi à Paris, Mathieu.
Oui, une boutique Chanel près de la place Vendôme. On ignore encore le montant du préjudice. Il s'agit de 4 individus en noir lourdement armés qui ne sont pas passés inaperçus dans la très chic rue de la Paix. La rue a d'ailleurs été barrée à l'arrivée des forces de l'ordre. Il y a cette vidéo amateur où l'on voit la moto et le scooter qui ont servi à la fuite. Alors on voit, si on regarde de près, un homme avec une arme lourde en bandoulière, il attend ses complices. Il fait le guet, en fait, calme impressionnant des malfrats. Les 3 braqueurs qui sortent avec de gros sacs noirs avant de prendre la fuite, aucun coup de feu n'a été tiré.
Ce sont des images amateurs là, qu'on vient de voir,
pardon. Filmées rue de la Paix cet après-midi à Paris.
Incroyable, pardon. Un nouveau bilan de l'attaque du théâtre de Mariupol a été publié aujourd'hui.
Oui, c'est une enquête de nos confrères de l'agence AP qui ont méticuleusement analysé le déroulé des faits du 16 mars dernier. Le théâtre de Mariupol abritait des civils, des enfants notamment. Une frappe aérienne l'avait détruit et il avait déjà fallu attendre plusieurs jours avant de connaître un premier bilan de 300 morts. Eh bien, ce serait finalement le double, plus du double. Le bilan s'élèverait en fait à plus de 600 morts faisant de cette frappe la plus meurtrière de la guerre.
Мы проходили мимо сцены, мы вот так вот могли переступать людей. Мы не знали, он раненый или уже человека нет в живых. Но те, кто были на сцене, погибли все.
И все вот люди, которые сверху были, их вот смыло, грубо говоря, снесло вот на вот этих людей, которые стояли внизу на полевой кухне.
Точное разумение, что вони воюють не з армією. Вони воюють з кожним українцем, з кожним маріупольцем. Вони прийшли не захоплювати місто, вони прийшли його руйнувати.
L'agence AP a interrogé 23 survivants et secouristes, étudié les plans du bâtiment. Sur le millier de réfugiés, seuls 200 auraient pu sortir du théâtre. L'enquête vient aussi contredire la version russe. Non, le théâtre ne servait pas de base à l'armée ukrainienne. Mariupol, où de nouvelles évacuations étaient annoncées aujourd'hui du côté de l'usine Azovstal. Et selon le renseignement ukrainien, la Russie préparait un défilé militaire dans le port de la ville, en fait, pour le 9 mai, fameuse date de la victoire en Russie, fête nationale. D'ailleurs, hier, en marge des répétitions du défilé de Moscou, cette fois, l'armée russe a ressorti son avion Ilyushin IL-80. On l'appelle aussi avion de l'apocalypse, rien que ça, parce que c'est de cet avion que Vladimir Poutine, attention conditionnel, dirigerait les opérations en cas de conflit nucléaire. On le surnomme aussi le Kremlin volant, on ne l'avait pas vu depuis des années. C'est une espèce de bunker volant aux multiples caractéristiques classifiées. On sait qu'il ne dispose pas de hublot, hormis le cockpit, une seule porte d'embarquement, des générateurs électriques à bord, des équipements de communication satellite aussi.
Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky lance un appel aux dons.
Oui, c'est dans une vidéo en anglais que le président ukrainien en appelle à la générosité de tous, une forme de financement participatif.
In one click, you can donate funds to protect our defenders, to save our civilians and to rebuild Ukraine. Reports will be updated every 24 hours. Every donation matters for victory. Donate to protect, donate to save, donate to rebuild. We will always remember your contribution to the victory of Ukraine, to the victory of freedom.
Une plateforme a été mise en ligne pour recueillir les dons, United24, c'est le nom de cette plateforme où vous le voyez, vous pouvez choisir où iraient vos dons, la défense et le déminage, l'aide médicale ou la reconstruction de l'Ukraine. À noter que tous les moyens de paiement sont acceptés, je l'ai noté parce que bon, virement, carte de crédit, PayPal, c'est pas surprenant, mais même les crypto-monnaies, on sait enfin à quoi servent les fameux bitcoins. Je ne sais pas quel sera le mode de paiement sélectionné, mais quelques heures après, Emmanuel Macron a annoncé 300 millions de dollars en plus pour l'Ukraine. La France porte son aide financière à 2 milliards de dollars au total.
Plus de 2 mois après le début de l'agression russe,
Les besoins humanitaires de la population et la situation économique du pays appellent un nouvel effort de la communauté internationale qui soit à la hauteur des destructions d'infrastructures civiles. Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que la France portera son appui global à 2 milliards de dollars.
Aujourd'hui était organisée une conférence des donateurs pour l'Ukraine à Varsovie. Alors que les combats se poursuivent, les bombardements dans tout le pays, ici le pont de la ville centrale de Dnipro, ou encore ce petit parc d'attractions pour enfants, il n'y en avait pas des enfants, hein, de Kharkiv, détruit ces dernières heures par un bombardement, image assez triste d'un univers enfantin, vous le voyez, frappé par l'aviation russe. Pendant que dans l'Est, le Donbass, c'est la résistance ukrainienne qui impressionne toujours.
Росія, можливо, і хоче показати, що вони щось дійсно можуть, але це просто як орда. Ну, того, яка була 14-го і зараз, це, мені кажеться, як безвихідна ситуація. Просто нема ніяких військової тактики, стратегії. Просто використовую усю тяжке зброєння.
Renaud Dely, on l'évoquait à l'instant, il y a un effort de solidarité sans précédent qui est organisé à l'échelle internationale.
Oui, mais moi ce qui me frappe en même temps, malheureusement, si j'ose dire, c'est qu'on a tendance, je pense collectivement, parfois à s'habituer à cette horreur. C'est-à-dire que la guerre, elle dure maintenant depuis plus de 2 mois et demi. Ces images, elles sont terribles. Pour le coup, on évoquait l'indignation tout à l'heure, ce sentiment. Là, s'il y a une indignation qui est légitime aujourd'hui, c'est bien face à cet événement-là et à ses conséquences dont on ne mesure pas encore, je pense, la portée. C'est un événement historique aux conséquences encore indéfinies et limitées. Et quand on regarde, d'une part, sur le plan de l'image, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on est bombardé d'images, si j'ose dire, cette mauvaise image, pour le coup, mais en tout cas, on a des images sans arrêt. On s'y habitue, j'ai l'impression, malgré la solidarité qui est sincère. Et d'autre part, quand vous regardez, dans une grande partie de l'opinion d'une part, et puis dans une grande partie du débat politique en France d'autre part, la principale conséquence du conflit en Ukraine qui est mise en avant, c'est la hausse des prix du carburant, c'est l'inflation. On a l'impression que c'est évidemment un sujet, la hausse des prix du carburant, c'est évidemment un vrai problème, l'inflation. Évidemment que les gouvernants doivent y remédier et secourir les gens auxquels ça pose des problèmes dans leur niveau de vie et leur vie quotidienne. Mais au regard de l'enjeu, on a l'impression que parfois cet enjeu-là, y compris dans le débat politique, même pendant la campagne présidentielle et a fortiori pour la campagne législative qui s'ouvre, l'inflation et la hausse des prix du carburant a pris le pas dans une bonne partie de la parole publique sur ce drame.
Les conséquences à long terme.
Sur les conséquences géopolitiques et d'abord humaines et sur ces massacres qui continuent.
On quitte l'Ukraine pour évoquer les élections partielles au Royaume-Uni.
Oui, c'est un scrutin très important pour Boris Johnson, mais ce soir, on va s'arrêter sur un aspect particulier de ces élections locales, des élections qui pourraient changer le destin de l'Irlande du Nord. 90 députés doivent y être élus pour l'Assemblée nord-irlandaise. Or, le Sinn Féin y est donné favori. C'est historique, le Sinn Féin qui a longtemps été la vitrine politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Un exemple, un seul, l'attentat de Brighton qui avait fait 5 morts en 1984, attentat à la bombe, visant un hôtel où se trouvait Margaret Thatcher.
Le Premier ministre se trouvait au premier étage lorsque la bombe a explosé au cinquième. Le résultat, on l'a vu, une partie de l'immeuble effondrée, dont la salle de bain de Madame Thatcher qui s'y trouvait quelques minutes avant l'explosion. Miracle aussi qu'il n'y ait eu que 4 morts et une trentaine de blessés, étant donné la puissance de l'explosion. Colère, soulagement, admiration, tels sont les sentiments qui dominent dans la presse de ce matin. Margaret Thatcher, forte, en prière, hier matin. Margaret Thatcher qui redit haut et fort que la démocratie vaincra et que le terrorisme ne passera pas.
Dans ce conflit, on compta 3480 morts en Irlande du Nord. On se souvient aussi du Bloody Sunday, bien sûr, le dimanche sanglant, tuerie de 1972 où 14 personnes avaient péri. Le conflit en Irlande du Nord qui dura jusqu'en 1998, jusqu'à ce qu'on a appelé l'accord du Vendredi Saint.
18h55, Tony Blair, le Premier ministre britannique, et Bernie Ahern, le numéro 1 irlandais, celle d'une poignée de main la paix impossible en Irlande du Nord. Inattendu encore, Tony Blair hésite, puis épuisé, revient pour se confier.
Faire ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est faire aboutir la volonté d'une immense majorité de gens ici, en Irlande du Nord. C'est la chance de vivre en paix, d'élever les enfants sans l'ombre de la peur. C'est tout ce que les gens ont toujours demandé.
Aujourd'hui, l'ancienne vitrine politique de l'IRA est donc donnée en tête pour ces élections en Irlande du Nord. Et même si le Sinn Féin promet un référendum pour la réunification des Irlandes, sur cette campagne, ils ont axé leur discours sur des thèmes que l'on connaît bien ici, le pouvoir d'achat et la protection sociale.
We've all been out
on the doors talking to the public. They get the significance of change. They get the significance of a First Minister for all, someone who will lead from the front, someone that will turn up on day one and work with others to try to put money in people's pockets to deal with the cost of living crisis, someone that will work with others to fix our broken health system, someone that will build a better future. So I think that it's now over to the public.
Alors, et quand on écoute les Nord-Irlandais, le Sinn Féin a réussi à se tailler un costume de parti de gouvernement aujourd'hui dans les sondages. Les bureaux de vote ferment dans 2 heures et les résultats seront connus dans la nuit.
Vous revenez nous les donner en direct
si vous voulez, dans la nuit.
En même temps que le Conseil national du PS.
Ah oui, ben voilà. C'est pas grave, on vous ouvrira l'antenne, Mathieu.
Je viendrai.
On termine avec une affaire étourdissante, absolument. Incroyable.
Complément d'enquête ce soir sur France 2, une affaire qui s'appelle l'affaire Atanor, qui mêle des militaires, des agents secrets, des francs-maçons, des élus, des notables. 15 personnes sont mises en examen dans ce qui pourrait être qualifié d'ubérisation des tueurs à gages, des anonymes, des gens qu'on ne penserait vraiment pas visés par des règlements de compte et qui pourtant ont échappé à la mort, comme ce syndicaliste que sa patronne avait tout simplement vu dans une manifestation de gilets jaunes, qui a pris peur et qui a donc voulu l'éliminer.
Pendant plusieurs jours, il suit tous les déplacements d'Hassan en voiture, depuis son domicile jusqu'à son travail, et même les trajets de sa femme et de ses 2 enfants.
Il y avait des photos de ma maison, les voitures, les routes qu'on prend, au boulot.
Vous ne vous êtes pas rendu compte d'avoir été surveillé du tout ?
Pas du tout. Ah, pas du tout. Je me suis rendu compte de rien. C'est... Encore aujourd'hui, avec tout le recul qu'il y a, J'ai encore du mal.
Des citoyens comme vous et moi, à l'origine de cette affaire en cause, des hommes issus d'une même loge maçonnique. Je vous passe tous les détails, vous les verrez peut-être ce soir, mais ils ont réussi à faire croire à des militaires qu'ils agissaient pour les services secrets, comme dans la mission d'élimination de Marie-Hélène Dini, coach en entreprise qui gênait les affaires d'un autre.
Pour expliquer leur présence, les 2 militaires de la Clio, nom de code à la DGSE, Dagomar et Adélard, livrent une explication étonnante. Madame Dini est, selon eux, une agent du Mossad, les services secrets israéliens.
Elle ne sortait pas tous les jours à la même heure de chez elle. Il fallait qu'on se méfie, parce qu'elle pouvait être équipée d'un beeper ou d'un système d'alerte qui aurait pu alerter les gens du Mossad.
Pourtant, Marie-Hélène Dini n'a rien à voir avec le Mossad. Elle n'a même jamais mis les pieds en Israël.
Des barbouzes, des membres du renseignement français qui éliminent moyennant 70 000 euros et qui sont très liés par l'engagement maçonnique qui est le leur.
Tant que ça reste à l'intérieur d'une loge, c'est très difficile de savoir ce qui se passe parce que les loges, vous savez, c'est des entités assez fermées en définitive. Donc pour qu'on détecte quelque chose, une dérive qui se passe, il faut que des choses sortent. Alors, en général, ça se passe parce qu'il y a des frères qui parlent, qui disent « Tiens, j'ai été dans telle loge, et puis, tiens, il parle beaucoup de trucs, ou il parle d'affaires, tu as vu, c'est incroyable et tout. » Bon, on entend des bruits. Mais alors là...
L'affaire Atanor, c'est dans Complément d'enquête ce soir à 23h05 sur France 2. Merci Mathieu, merci beaucoup Émile Brami d'être venu ce soir. Guerre, voilà, signé Louis-Ferdinand Céline, c'est... paru aujourd'hui, je vous l'offre, cher Renaud Delic, et j'offre votre livre à Émile Brami. Il est dédicacé pour mon père. Je le récupère dans un instant.
C'est moi qui ai gagné au change.
Renaud Delic, Anatomie d'une trahison, la gauche.
Bravo les cadeaux. Progrès, hein.
C'est l'Observatoire. On vous écoute tous les matins dans l'excellente matinale de France Info et aussi le samedi sur Arte aux commandes de 28 minutes. Merci beaucoup de votre présence ce soir. A tout de suite avec Henri Dess, notre invité du dîner. On vous attend, et l'œil de pierre aussi. Et puis la chronique médiatique.